Radio G 101.5 FM.
Chase you out of earth.
h 02 sur Radio G. Tout de suite, c'est l'heure de retrouver l'émission sportive, de Radio G. C'est Génération Sport. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Génération Sport. Voilà, on est avec vous pendant à peu près une heure pour parler de l'actualité sportive locale, nationale et internationale. Aujourd'hui, l'équipe est au complet avec donc ce trois titulaires, on va dire, avec Faustin qui est à ma gauche. Salut Faustin.
Salut Alex.
La forme ?
Ouais, nickel.
Un bon week-end ?
Très bon week-end.
Parfait.
Une défaite, malheureusement.
Ah mince.
C'était pas les championnats, c'était un match amical.
Ok, donc ça va. Ça révise avant le retour de championnat et surtout de la région.
Exactement.
Et oui, on en avait parlé dès ce week-end. Cédric est à ma droite. Salut Cédric.
Salut tout le monde.
La forme ?
Ouais.
Nickel. Il y a une actualité quand même assez chaude en ce moment. On sait, on n'a pas pu passer à côté.
Plus que chaud, je dirais, c'est bouillant.
Oui, c'est assez bouillant. Il va y avoir des évolutions de ce dossier-là, sûrement dans les jours ou les heures à venir.
Même dans les heures,
ouais, dans les heures à venir. Donc voilà, au programme de l'émission, évidemment, vous en avez l'habitude. Les actus locales, on va parler de tout ce qui s'est passé, parce qu'il y a pas mal de choses. Il y a le SCO, il y a l'UFAB. Faustin, tu nous feras un point sur les clubs de basket. Il y a l'Éduc d'Angers, avec beaucoup d'actualité sur les matchs, sur plusieurs compétitions, et puis surtout voilà ce week-end de Continental Cup qui approche et qui va arriver. Ce sera donc ce week-end, dès vendredi, donc voilà, restez branchés et On pourra parler de ça. Ensuite, on parlera donc des autres actualités nationales. On parlera un peu de football. On fera un point sur le basket également. On fera un point sur le Dakar. Et puis, on parlera vite fait de ski. Et puis, les deux gros dossiers aussi de cette émission. Ce sera un gros dossier autour de l'équipe de France. Avec, vous en avez entendu parler sur un peu partout, en fait. On ne parle que de ça. C'est Noël Le Graët qui a complètement dérapé sur RMC. C'était dimanche soir. Et donc, on reviendra un petit peu sur cette actualité-là. Et puis, surtout, des conséquences de ce qui s'est passé au niveau de ça. Et puis, on parlera aussi de Lloris et de Deschamps. Alors, Lloris arrête l'équipe de France et Deschamps continue pour 4 ans supplémentaires. Donc voilà, on parlera un petit peu de toute cette actualité autour des Bleus. Et puis, je vous parlerai en fin d'émission du Mondial de handball qui va débuter demain soir. Avec un match d'ouverture entre la France et la Pologne, et je vous ferai un petit aperçu de ce qu'on peut attendre pour l'équipe de France au niveau des joueurs et au niveau de leurs adversaires notamment. On va donc commencer sans plus tarder par ces actualités locales. On va commencer par le SCO, alors que rien n'allait pour Angesco depuis la reprise de la longue trêve internationale. Les hommes d'Abdel Bouazama se sont donné une bouffée d'air frais ce vendredi à l'occasion de leur entrée en lice en 32e de finale de Coupe de France. Les Angevins ont livré une belle bataille face au Racing Club de Strasbourg, mais les deux lanternes rouges de Ligue 1 n'arrivant pas à se départager, la décision devait se faire à l'issue d'une séance de tirs au but. Après 4 pénaltys transformés de la part de son équipe, Nabil Bentaleb rata une première fois la balle de qualif en envoyant sa tentative sur la barre, mais ce sera sans conséquence puisque Paul Bernardoni réalisa une parade décisive qui qualifia le SCO pour le prochain tour. Justement, pour le tour suivant, les Angevins se rendront une nouvelle fois dans la ville de Strasbourg et une nouvelle fois à la Méno pour y défier l'Olympique de Strasbourg, club de Régional 1, pour les 16e de finale. Et puis, au niveau du championnat, dès demain, on aura une grosse affiche au Parc des Princes contre le PSG. Il devrait y avoir des buts, il devrait y avoir pas mal de choses à dire.
Oui.
Oui, ça va être un gros match.
Ça va sûrement faire mal.
Oui. C'est le premier contre le dernier, tout simplement.
Ouais, ça risque d'être, je pense, un match un peu à sens unique, hélas. Mais...
Ouais.
Donc, je pense que certains joueurs ne sont pas encore titulaires.
Pas encore.
Vu les dernières news qu'on a eues, le PSG qui serait intéressé par un joueur du SCO.
Oui, Unai, donc.
Unai, voilà, ouais. Je pense pas qu'ils vont le faire jouer contre Paris s'il y a achat. Surtout que s'il y a achat, il y aurait un prêt. Oui, au niveau du plan, en tout cas, ce qu'on sait pour l'instant, même si c'est en état de rumeur, ce serait un prêt quand même jusqu'à la fin de la saison de la part du PSG. Donc c'est pour ça, je pense que dans tous les cas, ils vont pas le faire jouer.
Blessés, ouais. Très bien, donc on suivra ça évidemment pour Angesco. Faustin. On va passer au basket maintenant avec les trois clubs locaux. Je sais pas si le AB a joué.
Non,
okay. Non, ils ont pas joué.
Ils sont en train de jouer en ce moment même.
Donc tu nous feras un petit point là-dessus. On commence par l'UFAB qui a très bien démarré l'année 2023.
Tout à fait. Elles ont cartonné cette semaine en gagnant leurs deux matchs. Le premier en play-off de recoup face à l'Estudiantes Madrid sur le score de 65-55 et ce malgré les absences de Isis Arondo et Leila Lacan. Les Angevines joueront le match retour pour s'assurer une qualification pour le second tour jeudi à Jambouin. Leur deuxième match a été remporté en championnat cette fois sur le score de 85-77 contre les joueuses du Toulouse Métropole Basket. Du côté de l'EAB, donc comme tu le disais, ils n'ont pas joué depuis le 27 décembre, mais ils essaieront de se relancer de leurs trois défaites d'affilée en championnat ce soir face à Saint-Quentin. Le match a déjà démarré, il reste 4 minutes 45 dans le premier quart-temps et les Angevins mènent de 1 point.
Et pour Cholet ?
Cholet, les hommes de Laurent Villa se sont imposés en déplacement à Nanterre sur le score de 84-78. Ils restent ainsi toujours deuxième à ex-aequo avec les Mets. Ils jouent d'ailleurs ce soir à 21h contre Porto en Coupe d'Europe.
Oui, et puis il y aura un match important contre Monaco la semaine prochaine, et ce sera le dernier de la phase aller, avec donc cet objectif de potentiellement revenir à égalité des Monégasques.
Exactement.
S'ils l'emportent. On va donc enchaîner tout de suite avec le hockey sur glace. On savait que le mois de janvier s'annonçait chargé pour les Ducs d'Angers. Et en tout cas, on peut dire qu'ils ne départent pas de la meilleure des manières. La semaine dernière, en demi-finale de Coupe de France, les Angevins n'ont pas réussi à sortir du piège tendu par les brûleurs de loups de Grenoble. Les hommes de Jason O'Leary ont craqué au tir au but et la partie a même terminé en bagarre générale dans une ambiance assez tendue. Désormais plus en course à leur propre succession en coupe, les Angevins se sont tournés dès vendredi vers un match de Ligue Magnus très attendu, un classique contre les Dragons de Rouen. Là encore, les Ducs d'Angers n'ont pas répondu présent avec une sévère défaite 5-1 en Normandie. Et donc avant le grand rendez-vous de ce week-end en Continental Cup à l'Ice Park, ils y reçoivent ce soir même Briançon pour tenter de se relancer en championnat. Je me retourne vers toi Cédric, c'est vrai que voilà, il y a eu deux défaites qui font mal pour les Ducs, une face à un rival en championnat et puis une autre donc en demi-finale de Coupe de France. Comment tu sentirais les joueurs avant ce grand rendez-vous de ce week-end?
Apparemment, la défaite en demi-finale, elle est un petit peu injuste. Apparemment, c'était un match assez rude et pas forcément correct dans l'esprit.
Oui, j'ai entendu parler de ça justement.
Ouais, en tout cas, moi, c'est ce que j'en ai lu aussi. Voilà, c'est un peu dommage. C'est pas la première fois en plus.
Ouais.
Voilà, Sergi est un peu pris là-dessus.
Grenoble.
Que Grenoble est pris là-dessus. Donc, ça a été quand même assez loin, hein, puisque ça a été même après le match.
La bagarre est dans l'esprit du hockey. Mais c'est pendant les matchs, normalement.
Généralement, c'est pendant les matchs. Et
à la fin, on serre la main. Et
voilà, et là ça, apparemment.
Ah, c'était après, ouais.
Mais même pendant le match, apparemment, il y a. Ouais. Il y a des grosses fautes, mais c'est vrai que ça a été un peu bizarre. Voilà, c'est cette ambiance d'après-match, à un point que même ça s'en est pris à certains supporters. Donc, un peu étonnant, voilà. Bon, bah, après, ce qu'il en est, c'est bon, ça s'est joué, voilà, pas grand-chose non plus.
Ouais.
Que ça passe. Et puis après, avec Rouen, bon, on est quand même habitué, hein, généralement, on a du mal à
les battre.
À les battre. Il n'y a rien d'alarmant, j'ai envie de dire, pour le championnat. Hein.
Oui.
Bon, après, voilà, c'est sûr que c'est pas la meilleure façon de préparer les trois matchs, mais bon, je pense qu'ils ont bien. Enfin, il y a ce match ce soir qui me dérange un peu.
Pour la prépa, c'est.
Pour la prépa, ça peut être.
Ils ont que deux jours de repos, en fait. Ça,
c'est ça. Bon, après, ils ont l'habitude de.
Bien sûr.
De jouer quasiment tous les deux jours.
Là, ça va être trois jours.
Mais voilà, là, ça va être trois jours non-stop. Et c'est vrai que ça aurait peut-être été mieux de soit reporter le match ou je sais pas.
Ouais, je pense.
Si c'était possible au niveau du calendrier. Mais en tout cas, je pense que ce soir, c'est une mission. Il faut aller chercher la victoire.
Ah, clairement, ouais.
Parce que bon, enchaîner trois défaites, ça pourrait peut-être te travailler dans les têtes.
Ouais, t'as raison, ouais. Plomber un peu le moral.
Voilà, et puis.
Surtout que Briançon n'est pas forcément une grosse équipe du championnat, je me trompe. Ça joue au milieu de tableau, quoi.
Ils sont quand même régulièrement là, mais ouais, c'est quand même en dessous, voilà, des cadors.
C'est abordable, justement, pour prendre la confiance aussi.
Après, je pense que l'enjeu aussi du match ce soir, bon, bah, forcément, c'est la victoire. Mais peut-être c'est aussi d'y mettre la manière.
Ouais.
Parce que je pense que pour les premières lignes, tout ça, ça va être important de pouvoir scorer, de se mettre en confiance, justement. Quitte à aller chercher une victoire d'un but à l'écart, autant le faire ce week-end plutôt que ce soir, quoi. Ce soir, il faut essayer d'aller faire
un score,
voilà.
Et il y aura le public, justement, qui sera là, donc c'est parfait, ça fait une vraie répétition avant, justement, ce week-end de folie. Tu comptes y aller ou pas, toi, de ton côté?
Non, je pense pas. C'était un peu compliqué pour avoir des places.
Ouais.
Il y a eu des choses qui sont assez rares, apparemment. Il y a eu des places qui ont été rajoutées, je crois, ce week-end.
Ok.
Ou lundi, ce qui prouve qu'il y a quand même
un engouement
et que la Fédération européenne est quand même ouvert d'esprit et a permis de remettre des places en vente au public. Donc ça, c'est toujours bien à noter aussi.
À toi, Zard, toi, Faustin, tu n'y vas pas?
Non.
Non. Alors, très bien.
Et par contre, on va essayer de trouver sûrement un petit stream.
Oui, c'est pour... ça. Est-ce qu'il y a un diffuseur? Je ne sais même pas.
Alors, il y a sûrement un diffuseur officiel qui est sûrement anglais, je pense.
Ouais, peut-être.
Mais je sais qu'il y a Cardiff. Il y avait eu une web TV. Okay. C'était payant, par contre.
Ah.
Mais voilà, mais il y a sûrement, voilà, je pense, peut-être Fansite qui va peut-être. Retransmettre. Fin...
Ouais, c'est vrai que c'est eux qui retransmettent la Ligue Magnus.
Ouais, c'est ça.
Très bien. Donc voilà, effectivement, on suivra, c'est l'événement hein, de ce week-end côté sport angevin. Évidemment, allez sur nos réseaux sociaux, on relaiera un peu tout ce qui s'y passe là-bas avec cet objectif de remporter cette Continental Cup. Je crois que ce serait la première dans l'histoire de
ce serait la première du club,
ouais, je pense. Donc ce serait assez important donc pour les Ducs.
Et en tout cas, grosse semaine européenne pour les clubs angevins.
Oui, donc avec également, donc, on a parlé de Cholet, on a parlé de l'UFAB également, ouais, ouais. Qui va jouer donc jeudi et qui va justement voilà, lancer peut-être la route de la victoire pour les clubs angevins. On va passer aux actus nationales et internationales maintenant. Je vais commencer par le football. C'était un week-end de Coupe de France, ce week-end. Il y a eu, évidemment, comme d'habitude, des exploits de la part de clubs amateurs. Il y a eu des exploits de la part de Thon, je ne sais pas comment on prononce. Il y a également Le Puy, l'Olympique Strasbourg, on en a parlé. Et puis des clubs de Ligue 2 comme Rodez et Pau hein, qui ont battu des équipes de Ligue 1. Dans le même temps, Montpellier, Nice, Monaco et Clermont ont été sortis par des clubs de division inférieure. Ensuite, Paris s'est défait du piège Châteauroux. Lyon a galéré, mais s'est qualifié contre Metz. Marseille s'en est sorti à 10 contre 11 contre hier. Et Rennes a éliminé tranquillement Bordeaux. La 18e journée de Ligue 1 se déroulera sur toute la soirée de demain avec 5 matchs à 19h et 5 matchs à 21h. Dans un premier temps, on aura Clermont-Rennes, Brest-Lille, Nantes-Lyon, Ajaccio-Reims et Auxerre-Toulouse. Puis, on l'a dit, le PSG recevra le SCO, Marseille ira à 3, Lens se déplacera à Strasbourg, Lorient défiera Monaco et enfin Nice affrontera Montpellier. À noter que cette journée se fera sans Lucien Favre ni Julien Stéphan. Tous deux limogés respectivement par Nice et Strasbourg. Le nombre d'entraîneurs virés dans notre championnat depuis le début de la saison, est-ce que tu peux le deviner, Cédric?
Alors, il y a 20 équipes.
Il y a 20 équipes, ouais.
Je dirais au moins la moitié.
Eh bien, on n'est pas loin, on est à 9.
On est à 9, ouais.
C'est un record avant la fin de la phase aller en Ligue 1. Donc voilà, 9 équipes, on est quasiment à la moitié. Et je ne sais pas s'il y a d'autres entraîneurs qui sont menacés pour qu'on arrive à 10. Peut-être à Ajaccio, mais ça a l'air de passer.
Ouais, parce qu'ils sont...
À Nantes, Comboiré a l'air d'avoir la confiance.
Pour l'instant, ouais. Après, on sait que ça peut aller très vite à Nantes.
Ouais. Je réfléchis, mais non, je ne pense pas qu'il y a d'autres entraîneurs très menacés.
Non, mais en tout cas, il y a... Alors, ça y est. C'est oui. Le week-end où il y avait peut-être un coup pour les relégables à faire en affrontant des gros. Ouais. Ouais, mais ça va être compliqué parce que entre Angers qui joue Paris, oui, et Strasbourg qui
joue Lens,
qui a un très beau football depuis le début de la saison plusieurs saisons, c'est vrai que pour eux là c'est pas la bonne période. Bah,
c'est le mauvais
pour les
timing
prendre.
En fait, ça c'est le mauvais timing. Hein. C'est deux équipes qui ont besoin de points et qui vont devoir un peu galérer pour les obtenir. Mais c'est vrai que y a des équipes de bas de tableau qui peuvent essayer de gratter des points. Il y a Auxerre qui joue Toulouse, c'est peut-être un coup à jouer. Ajaccio contre Reims, Clermont, Rennes, ça peut être compliqué. Mais voilà, hein, effectivement notre Ligue 1 avec donc 9 entraîneurs virés hein, depuis le début de la saison. On parlera donc de football plus tard dans l'émission. On parlera évidemment de l'équipe de France. Mais avant ça, on va donc terminer cette chronique d'actualité sportive. On va enchaîner avec le basket. Faustin, on a quoi au programme? Betclic Elite, Euroleague et NBA?
T'as tout deviné, voilà.
Comme d'habitude.
Comme d'habitude, exactement. Je vais démarrer, comme d'habitude aussi, par l'Euroleague. Parce que hier, on a eu le droit à un gros match qui opposait, évidemment, comme d'habitude, hein, un peu les Mets à Villeurbanne. Match qui a tenu toutes ses promesses et qui s'est terminé dans le Money Time. Et c'est bien les Mets qui ont remporté ce match grâce à la claquette dunk de Victor Wembanyama à 3 secondes de la fin du match, qui permet de donner un point d'avance à son équipe, qui suffira à remporter le match. À part ça, on a eu les leaders du championnat, Monaco, qui sont eux aussi imposés face à Pau sur le score de 83-77, et notamment grâce à la grosse performance du meneur américain Mike James, qui a mis 22 points. Il reste ainsi seul en tête du championnat. Maintenant, je vais passer à l'Euroleague, où nos deux clubs français ont malheureusement perdu. Le premier est Monaco, qui s'est incliné face aux Partizans de Belgrade sur le score de 100-80. Et ensuite, c'est l'ASVEL qui, lui aussi, a perdu contre l'Anadolu Efes sur le score de 78-72. On va maintenant passer de l'autre côté de l'Atlantique pour parler de NBA. Et cela fait depuis le 20 décembre que les votes pour le All-Star Game ont commencé. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, chaque jour, on peut voter pour un 5 majeur composé de 3 intérieurs et 2 extérieurs dans chaque conférence. Les joueurs ayant reçu le plus de votes seront sélectionnés pour le All-Star Game. Le premier de chaque conférence sera capitaine et constituera son équipe en direct à la télé. Au bout de 3 semaines de vote, on a eu le premier classement avec déjà 2 joueurs qui semblent avoir pris une très bonne avance pour devenir capitaine. À votre avis, est-ce que vous avez une idée de qui ça peut bien être?
Pour
les joueurs qui ont reçu le plus de votes. C'est 2 intérieurs.
Alors, 2 intérieurs, moi je ne m'y connais pas trop en poste de NBA. Mais peut-être un Jokic, peut-être?
Non, il est deuxième.
Pas de Gobert non plus?
Non. Trop. Elle n'est même pas dans le top 10, Gobert, malheureusement.
Compliqué.
On pense aux gros joueurs, vraiment le top du top de l'NBA.
C'est pas notre fort, l'NBA, avec Cédric.
Ouais. Ah, je pense que là, il y en a un.
Il y en a un, on l'a.
Ah, il y en a un, c'est sûr, à 100%.
LeBron James
intérieur.
Ouais, c'est LeBron James.
Ah, il est intérieur. Il est poste
4. Il est poste 3.
3.
3 okay. Et 3 ou 4. Mais en fait, quand ils disent intérieur, tu vois, c'est. J'étais en poste 3, 4, 5.
Okay.
Extérieur 1 et 2.
D'accord, ok.
C'est comme ça.
Ok, d'accord.
Et le deuxième, j'imagine que vous ne l'aurez pas, c'est Kevin Durant.
Oui. Du coup, ok.
Qui,
bon, on connaît quand même.
Il est toujours là, ouais.
Voilà. Il s'est d'ailleurs blessé récemment. On a eu peur que ce soit les croisés, les images. Ah oui. Mais finalement, non. Il en a pour 6 semaines quand même.
Ouais. Okay.
Voilà. Donc, avec respectivement 3 118 545 votes pour Kevin Durant et 3 168 694 votes pour LeBron James. Pour ma part, j'ai donné mes votes. À l'Est, je mets Donovan Mitchell et Kyrie Irving en extérieur. Et à l'intérieur, je mettrai Jason Tatum, le poste 3 des Boston Celtics, Pascal Siakam, évidemment, parce qu'il faut représenter Toronto, mon équipe de cœur, ainsi que Kevin Durant, du coup. À l'ouest, je mets Shai Gilgeous-Alexander, qui est un joueur peu connu en France, mais pourtant très bon cette saison avec Oklahoma. Ensuite, Ja Morant. Pour les intérieurs, LeBron James évidemment, suivi de Zion Williamson, la jeune pépite qui réalise sa première saison complète et qui est très spectaculaire à voir jouer, ainsi que encore une fois un joueur un peu moins connu qui est Lauri Markkanen, qui réalise lui aussi une très bonne saison du côté du Jazz. À part ça, j'aimerais aussi souligner les très bonnes perfs de Killian Hayes, dont j'avais parlé il y a quelques temps en faisant un point des Français, et qui continue de carburer et qui a même égalé son record en carrière de points en mettant 26 contre les Sixers. Pour le moment, il pallie parfaitement à l'absence du meneur titulaire des Detroit Pistons, qui est Kate Cunningham. Mm. C'est tout pour les actus NBA.
Je voulais te demander si tu avais vu quelque chose passer sur les réseaux, notamment il y a eu Wembanyama, justement, je vais revenir en France, qui s'est fait un petit peu, alors il s'est pas fait de quai dessus, c'est pas tellement possible, mais il y a en gros un joueur qui a réussi à l'éliminer
Ouais.
Pour derrière claquer un magnifique dunk, je l'ai pas. Oui, Yves Ponce, c'est ça que je sais pas de quelle
c'est
équipe il est.
Villeurbanne,
voilà ça. Et qui le fume complètement. Hein. Hop, il se retourne et dunk sur un Wembanyama. Je pense que t'as vu.
Ouais, c'est
assez impressionnant.
C'est celui qui a gagné le concours de dunk. Donc,
ah bah oui, c'est ça.
Ça m'étonne
et
pas.
Et qui avait dunké du coup sur Wembanyama.
Ouais, voilà,
il l'a refait. Donc voilà. Là, pour le coup, en match. Ça marche donc pour ce point basket. On va terminer avec d'autres petites infos qui vont concerner notamment voilà le rallye et puis également le ski. On va commencer par le Dakar qui avait débuté le 31 décembre dernier dans le désert du Moyen-Orient pour sa 45e édition. Aujourd'hui, on va faire donc un petit point sur la compétition en commençant par vous dire que l'étape du jour a été remportée par le Français, l'ancien champion du monde de rallye, Sébastien Loeb. C'est sa 3e victoire d'étape depuis le début de la course en Arabie Saoudite. Le leader du classement auto n'est autre que le Qatari Nasser Al-Attiyah, premier donc avec 1h21 d'avance sur son dauphin Lucas Moraes. On va également faire un point au niveau donc du ski, un mot sur les sports d'hiver avec le ski de fond et Delphine Claudel qui est devenue dimanche dernier la première française de l'histoire à remporter une étape de Coupe du Monde en ski de fond. Dans la même journée, l'américaine Michaela Schifrin a égalé le record de victoires en Coupe du Monde détenu jusque-là par Lindsey Vonn. À seulement 27 ans, elle a remporté donc son 82e succès dans sa discipline, le ski alpin. Et ça n'est pas prêt de s'arrêter, évidemment. Voilà pour ce point sur l'actualité sportive locale et internationale. Rien à rajouter, messieurs, avant de passer à la pause musicale.
Non, mais c'est bien qu'en ski de fond, on arrive à tout doucement à aller talonner les pays nordiques qui ont quand même l'habitude de tout décrocher. Donc
ouais.
C'est bien en vue des futurs JO. Enfin,
ça peut être intéressant.
Ouais.
Nous allons donc passer à la pause musicale. Tout de suite, on va s'écouter Starboy de The Weeknd et on se retrouve juste après.
Kill any pain. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Every day a nigga try to test me. Every day a nigga try to end me. Pull off in that roadster. That's a far cry. I come alive in the fall time. The competition, I don't really listen. I'm in the blue moon, some of a new edition. House so empty, need a centerpiece. 20 racks a table, come from ebony. Cut that ever into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see the shade. Switch on my side, like to get any lane. I switch on my car if I kill any pain. Nigga bracket, legend of the fall, took the year like a bandit. Bought mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking lavish. Star Trek roof in the Wraith of Khan. Girls get loose when they hear the song. 100 on the dash, get me close to God. We don't pray for love.
empty, need a centerpiece. 20 racks a table, cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see the shade. Switch out my side, like to get any lane. Switch out my code.
The Weeknd est son titre Starboy dans Radio G. Vous êtes donc toujours sur le 101.5 FM ou bien sur le site www.radio-g.fr. C'est Génération Sport, l'émission sportive de la station. On est ensemble donc jusqu'à 21h pour parler un petit peu d'équipe de France. On va parler d'équipe de France de football et après on parlera d'équipe de France de handball. Avant ça, Cédric, tu as une info, une flash news comme on dit, avec donc la diffusion, parce qu'en fait on en parlait juste avant dans l'émission, donc la diffusion de la Continental Cup se fera en clair. Attends, pardon, excuse-moi, c'est toujours ce
avec micro. Le micro, ça va être mieux.
Ouais, c'est vrai. Ça
mais oui, tout à l'heure on se posait la question de s'il y avait un diffuseur et on avait misé sur le site Fansit. Donc le site Fansit effectivement va diffuser la Continental Cup, mais la bonne nouvelle qui va avec, c'est que la chaîne Sport en France, qui diffuse aussi régulièrement
du hockey
et surtout la Magnus et la Coupe de France, va aussi programmer donc la diffusion des matchs au moins des Ducs. Alors après, je sais pas si ça va être l'intégralité du tournoi, mais en tout cas on peut penser qu'il y aura les matchs des Ducs. Ouais. Donc vendredi soir, samedi soir et dimanche fin d'après-midi.
Oui, c'est ça. Je sais pas quel canal c'est, Sport en France. Dès qu'on peut retrouver ça.
Ça dépend des box. Oui, oui. Sinon, sur leur site internet directement,
oui,
il y a.
T'as raison.
Il y a la web TV.
Il y a le direct.
Et aussi, oui. Ce qui peut intéresser, apparemment, il resterait aussi des places disponibles.
Faustin, au niveau de l'EAB, est-ce que ça, ouais. Y a du nouveau?
Ouais, là, malheureusement, ils se sont fait un peu remonter. Il y a 31-29 pour Saint-Quentin à 6 minutes 39 de la fin du deuxième quart-temps.
Ça marche, merci pour ce petit point au basket. On va pouvoir passer à l'équipe de France de football qui a été un petit peu ébranlée ces deux derniers jours avec beaucoup d'annonces. Déjà samedi, l'officialisation de la prolongation de Didier Deschamps pour encore 4 ans à la tête des Bleus. Donc ça concernera l'Euro 2024 et la Coupe du Monde 2026. Ensuite, il y a eu ce fameux dérapage donc le dimanche soir de Le Graët dans l'émission d'RMC Bartoli Time. Donc voilà, avec ses propos. On reviendra dessus plus en détail plus tard dans l'émission, enfin en tout cas dans le débat. Et puis hier, il y a eu donc un autre truc, c'est Hugo Lloris, le capitaine de l'équipe de France, le gardien de l'équipe de France, qui a annoncé sa retraite internationale après 145 sélections et alors qu'il avait 36 ans. On va commencer justement par ce dernier dossier, Hugo Lloris. Donc voilà, c'est le capitaine hein, des Bleus qui s'en va. Quel sentiment vous avez quand vous avez eu l'info? Qu'est-ce que ça a fait chez vous? Est-ce que vous étiez surpris par cette décision?
En vrai, ouais, un peu. Je pensais qu'il allait au moins continuer jusqu'à l'Euro.
Ouais.
Même s'il n'était pas forcément titulaire à l'Euro. Enfin, ça aurait été discutable, je pense. Mais ouais, ça fait bizarre quand même. On remarque que du coup, c'est là qu'il y a une page qui se tourne quand même.
Ouais, ouais.
Une nouvelle génération en équipe de France avec les jeunes comme Tchouameni, Kamavinga qui vont prendre la relève. Mm-hmm. Mais voilà, c'était un super gardien. Toute sa carrière en équipe de France, surtout en équipe de France, je trouve.
Ouais.
Ça fait quelque chose quand même.
Cédric ?
Je dirais plus surpris par le timing pour l'annonce. Ouais. Mais c'était déjà dans les tuyaux depuis la fin de la Coupe du Monde et même pendant, ça commençait déjà à parler. Quand on lit un peu ses déclarations par rapport à ça, c'est comme il disait, être le gardien de l'équipe de France pendant autant d'années, ça prend de l'énergie, ça joue beaucoup sur sa vie aussi personnelle. Donc il avait aussi envie de passer du temps avec sa famille. Ça peut se comprendre au bout d'un moment.
Oui,
enfin, voilà,
36 ans, oui.
À 36 ans aussi, voilà. Le corps n'en répond plus forcément de la même manière. Donc, en soi, c'est pas une retraite, on va dire, illogique,
ouais.
Méritée, ça c'est sûr.
Ouais.
Malgré que pour moi, si on reprend dans ces grands faits, bah, son plus gros, je dirais, point faible, c'était quand même tout ce qui était arrêt de penalty oui, et de coup franc. Ça a toujours été son gros point faible. Par contre, oui, en termes d'aura, en termes de capitaine, c'est vrai que même si pour la Coupe du Monde, on ne sait pas trop réellement si c'était réellement ses paroles ou si ça a été dicté, mais dans l'ensemble, il a quand même un bilan en tant que capitaine pour l'image de l'équipe de France excellente.
Oui, quelqu'un qui
c'est un changement. C'est en 2-3 ans, on a eu les deux gardiens titulaires qui prennent un peu leur retraite internationale. Quoi.
Effectivement, avec Mandanda qui est sur la fin.
Oui, qui était revenu
parce qu'il y avait besoin.
Il y avait besoin, mais je pense que de base, il n'était pas dans les projets.
Effectivement, c'est vrai que ça fait bizarre de voir Lloris partir. Alors moi, je m'y attendais sans m'y attendre, en fait, parce que effectivement, ça aurait été bien un peu de changement avec Maignan qui arrive derrière. Mais c'est vrai que je le voyais mal raccrocher en équipe de France et il l'a fait. Je pense que je salue surtout le geste de le faire un peu pour le bien de l'équipe de France en disant vraiment dans son interview sur l'équipe notamment en disant à un moment donné j'ai un bon successeur, il y a Mike Maignan qui fera l'affaire. Il faut que je passe le relais donc j'ai trouvé ça intéressant. Est-ce que vous avez des souvenirs marquants qui vous viennent en tête en équipe de France? Hugo Lloris, c'est pourquoi pour vous c'est quoi vos plus grands matchs? Je vais commencer pour vous aider temps de réfléchir.
Moi, je dirais quand même ça vous pouvez être en finale de la Coupe du Monde.
Ah, tu retiens le négatif.
Ouais, bravo, parce que un gardien, hormis des grands arrêts exceptionnels, tu retiens surtout finalement que quand il est mauvais, puisque s'il fait bien son taf.
Ouais.
Tu le vois quasiment pas du match, quoi.
Ouais. Faustin, toi, t'as bien.
J'avais un peu pareil en tête.
La boulette aussi. Ouais, les gars. moi, je serais parti sur l'entièreté, évidemment, de la Coupe du Monde 2018. Mais les deux arrêts qui m'ont choqué, c'est contre l'Uruguay. Je sais pas si vous avez ça en tête, mais des arrêts de fou furieux. Le ballon, il est déjà rentré, que le gars, il la sort. Enfin, c'est complètement dingue. Moi, c'était un de mes plus grand soutien avec Lloris parce que on est champion du monde un peu grâce à lui, hein, clairement. Et effectivement, en fait, il y a ce truc. Je dis beaucoup le mot effectivement.
Effectivement.
Donc sur cette finale, donc il y a cette boulette qui fait avec le but de Mandzukic. Mais je trouve c'est vrai que ça entache beaucoup son bilan, alors que la Coupe du Monde qu'il fait, elle est incroyable, je trouve. Le match contre la Belgique
dans le match, ça le fait rebondir du coup derrière.
Oui.
Parce qu'il nous fait quand même un gros match derrière. Donc.
Oui, bien sûr. Même si c'était plutôt demi-temps. Le but. Mais ouais. Sinon, justement, on parlait de ses potentiels remplaçants. Je vais commencer par le poste de gardien de but et après on ira sur le capitaine. Au niveau de. Du numéro 1, du futur numéro 1, je pense qu'il n'y a pas doute sur le fait que ce soit Mac Maignan numéro 1. Mais au niveau des autres qui vont arriver, est-ce que vous avez des pistes, des gars que vous aimez bien, que vous aimeriez voir un jour en équipe de France? Parce que, donc, on l'a dit, Lloris s'en va, ça libère une place. Mais Mandanda, il est un peu sur la fin de sa carrière, il a 38 ans. Et puis, il y a Areola qui ne joue pas du tout avec West Ham. Et pourtant, les trois étaient à la Coupe du Monde.
Ouais, il est dans les plantes des champs.
Oui, c'est ça. Donc, c'est ça qui contrebalance. Mais il y aura forcément au moins une place, notamment avec le fait que Mac Maignan est blessé, notamment pour Mars. Quels sont les gardiens que vous aimeriez voir notamment
moi, le
numéro
2,
numéro 3.
Ouais. Premier nom qui vient en tête, c'est Lafont.
Ouais, Alban Lafont, du FC Nantes.
L'année dernière, surtout, il a fait une saison excellente dans le match contre Paris. Mais,
23 ans, Lafont.
Ouais,
c'est vraiment le futur, quoi.
Mais sinon, j'en avais pas trop gardien français. Ça Bernardoni, mais ça m'étonnerait.
Ça va être compliqué. Il va falloir qu'il se bouge un peu, s'il veut aller en équipe de France. Mais je sais pas. Cédric, t'en as en tête ou à part Lafont?
Non, j'étais en train de regarder. Parce que le gardien de Lens, je sais plus.
Et Brice Samba, effectivement, il est français.
Il est français.
Il est éligible.
Il est éligible.
Et il est très fort.
Il est très bon. Donc,
Pourquoi pas. Brice Samba, ça peut être intéressant pour la suite. Et moi, j'en rajouterai un autre, peut-être Ilan Meslier de Leeds, qui est plutôt pas mal et qui s'est imposé comme un titulaire d'une équipe de première ligue. Et il est très jeune aussi, je crois que c'est un 2000 ou un truc comme ça. Mais voilà, ça va être intéressant de voir ça. De voir un peu de nouveaux visages dans les buts, parce que c'est vrai qu'on adorait Lloris, mais c'est vrai que c'était tout le temps le même à son poste. Et ça, il n'y avait pas beaucoup de changements. Et il avait même du mal un peu à laisser la main à Maignan sur la fin. Mais là, en tout cas, on aura beaucoup de nouveaux visages. Et en tout cas, on a du bon. Pardon. Et dans les buts, dans les buts, donc on l'a dit. Et en tant que capitaine, qui est-ce que vous aimeriez voir en tant que capitaine de cette équipe de France? Ça parle de Varane, de Griezmann, de Mbappé. Qui est-ce que vous aimeriez voir? Capitaine.
La réponse est sûrement dans les trois.
Oui, ouais, bah, c'est sûrement ça.
Ça, c'est sûr, mais.
Si on le donne à Mbappé, il va l'être pendant des années et des années.
C'est ça.
Si on le donne à Varane ou Griezmann, ça va durer déjà un peu moins longtemps.
Ouais.
Peut-être jusqu'au Mondial 2026.
Ouais.
Je pense que. Peut-être pas pour Varane, mais.
Peut-être 2028. Je pense qu'ils iront chercher.
Ah ouais.
Ah, je sais pas, en vrai. Peut-être.
Ouais.
T'as raison.
On verra le temps.
Ils ont tout autour de 30 ans. Hein, donc,
ouais,
ouais. Ouais,
ça ouais, raison, 34, oui, ça ferait. Ouais, t'as raison. Mais oui, donc.
Mais Mbappé, il serait légitime quand même. C'est clair que ce qu'il fait en équipe de France.
Ça mérite évidemment le brassard. Cédric.
Comme on disait, qu'on a pu le voir aussi, pendant la mi-temps de la finale, on voit quand même Mbappé en meneur d'homme.
Oui,
c'est vrai.
Et c'est ce qu'on demande quelque part à un capitaine. Donc, ouais. Naturellement, oui, j'ai envie de dire pourquoi pas.
Ouais.
Après, je me dis que c'est d'avoir un capitaine qui est à peu près dans le milieu de terrain.
C'est toujours bien.
C'est toujours bien parce que tu peux mieux coordonner.
Justement.
Ta défense, ton attaque, ton gardien, tout ça.
Pourquoi pas un joueur qui n'a pas pu participer à la Coupe du Monde parce qu'il était blessé, Paul Pogba, qui en 2018 était un vrai leader de cette équipe, un vrai leader vocal, en plus d'être un joueur exceptionnel en termes de potentiel, puisqu'il a quand même du mal à l'exprimer. En club, notamment en équipe de France, ça va, il a quand même des bons bilans. Ça pourrait être une solution, Paul Pogba, s'il revenait à un bon niveau.
À voir avec la fragilité qu'il a maintenant, mais ça peut être une solution. Voir aussi comment, avec le brassard de capitaine, il se comporterait. Il y a toujours ça aussi. Ça peut être un joueur aussi qui peut être très sanguin, qui peut.
Oui, bien sûr.
C'est pour ça,
Il s'était embrouillé avec Deschamps à l'Euro 2020.
C'est ça, voilà.
Moi, j'aimerais bien le voir.
Ça peut être intéressant de tenter.
Déjà, j'aimerais bien le voir sur un terrain de football parce que ça fait depuis mai 2022 qu'il n'a pas.
Mais ça peut être une solution. Après, voilà, voir sur du long terme.
Ouais.
C'est toujours compliqué de toute façon de choisir son capitaine.
Faustin, toi,
l'idée de quoi tout ça. Mais c'est vrai que ça peut être une très bonne idée. Mettre Pogba qui parle beaucoup, qui avait une bonne ambiance aussi.
Ouais. Voilà. En tout cas, voilà, ce sera. Il y a un seul homme qui peut donc décider de ce capitaine-là, c'est Didier Deschamps. Et Didier Deschamps, justement, ça nous fait une très bonne transition. Il a été donc prolongé avec les Bleus jusqu'en 2026. Je crois qu'on avait parlé il y a une ou deux émissions justement sur ce choix de prolonger ou non Didier Deschamps. Je me souviens plus d'un peu de vos avis, mais je vais vous reposer la question. Est-ce que pour vous, c'est le meilleur choix entre lui et Zidane? Faustin, toi, t'es plus quel team?
Moi, je n'étais pas tellement décidé, mais je me disais que ça pouvait être bien de changer pour justement la nouvelle génération qui arrive, tout changer d'entraîneur, ferait une bonne transition. Mais après, Deschamps, les résultats, ils sont toujours là. Hein, donc, si à l'Euro, ça performe, il n'y a pas de raison qu'au Mondial, après, ça ne performe pas.
Ouais.
Et si ça reste comme ça, ça me va très bien.
Toi, Cédric, t'étais quel team?
Moi, ce qui me dérangeait, c'était surtout sur la durée.
Bah oui,
parce que voilà, en parler après, mais 2026,
ça prend un peu en otage.
C'est un peu loin. Et puis, derrière on savait aussi qu'il y avait un double enjeu, parce qu'on savait qu'en cas de. C'est d'ailleurs en 2024, je crois, ou 25, il y a l'élection à la Fédération française.
Je crois que c'est 2024.
C'est ça.
Bah, du coup,
ça pouvait mettre une. Quelque part. Une épine de moins pour le successeur. Mais bon, est-ce que le successeur aurait été d'accord avec ce choix-là? Voilà, et puis quand on prend, si on prend le bilan pur, oui, effectivement, c'est réussi pour Deschamps. Sauf que, bah, on l'a vu avec les nombreuses blessures. Quand il a appelé les jeunes, bah, on a vu que le fait de ne pas avoir appelé de jeunes, ça posait problème.
Ouais, t'as raison.
On n'a pas non plus un super football. Hein, je veux dire, oui, voilà. On s'ennuie quand même sur les matchs.
Ah oui, oui, clairement.
On a quand même été dominé sur les trois derniers matchs.
Ah bah, largement.
Et on a de la chance de, ouais, de sortir sur deux, quoi.
Ah bah,
le
clairement.
Troisième, bon, voilà, on le perd, mais bon.
On ne méritait pas de gagner.
C'était compliqué, voilà. Y a ces petites histoires autour de Deschamps avec certains joueurs. Enfin,
ouais, ouais.
C'est pour ça que peut-être que pour amener plus de jeunes et peut-être mieux communiquer avec les jeunes, un changement aurait été bien. Mais bon, si on prend exactement apparemment ce qui a été dit et fait, c'est juste le bilan qui a compté. Effectivement, son bilan est plus que positif.
Ouais, c'est vrai. Moi, je partage un peu ton avis, enfin, ce que tu disais sur notamment le jeu. Enfin, en tant que supporter français, hein, j'ai l'impression qu'on, enfin, on doit tous être un peu peinés de voir qu'on va se taper encore de ce jeu-là pendant 4 ans, non pas 2, mais 4. Je me dis aussi que la longueur du contrat nous amène jusqu'en 2026 et que donc. Ça fait déjà 14 ans en équipe de France, mais surtout ça veut dire que s'il rate son Euro 2024, en fait il va pouvoir continuer tranquillement en 2026, et peut-être qu'il ratera 2026 ou qu'il va faire une demi-finale et puis qu'on dira que c'est bien. Donc ça me chiffonne un peu, hein. Je suis clairement pas team Deschamps, en tout cas pour qu'il prolonge. Après, je respecte évidemment l'entraîneur, il a fait de très bonnes choses, comme tu l'as dit, un très bon bilan, mais je pense que c'était, comme tu disais Faustin aussi, le moment parfait pour changer de génération et avoir un Zidane. Parce que voilà, il y a des gens qui pourraient dire oui, mais Zidane, machin, on sait pas trop, mais on a quand même une bonne idée avec son.
Disons que pour
gérer. Il a trois Ligue des Champions d'affilée, quoi.
C'est ça, pour gérer un vestiaire avec des gros égos et avec
Zidane
des grosses stars.
Zidane est.
Voilà, il a été quand même là en tant qu'entraîneur, en tant qu'adjoint.
Non, mais.
Adjoint, du peu quand même d'Ancelotti.
Ouais, ouais,
qui a quand même un beau palmarès, oui, voilà.
C'est
je pense bien. Qu'il a appris quand même avec les plus grands au final. Donc ouais. C'est vrai que pour une transition, je pense que oui, ça aurait été bien. Enfin, en tout cas, sur un projet à court terme, par exemple.
Oui, voilà.
On voyait jusqu'à ce que ça donnait à l'Euro.
Il n'aurait peut-être pas fait 10 ans comme Deschamps, c'est sûr. Ouais. Mais on aurait testé, quoi.
On aurait pu tester. Je pense que, en plus, il est quand même apprécié de beaucoup de joueurs.
Ouais.
Ça aurait pu être un plus.
Ouais. Et justement, donc c'est Noël Le Graët, hein, qui a donc tout fait pour que prolonger son copain.
Qui apparemment qui a fait ça tout seul, oui.
Oui, c'est ça, avec son copain Deschamps. Ils se sont vus à Guingamp, ils ont mangé la bonne franquette et puis ils ont signé un contrat. Et donc Noël Le Graët, après donc un repas arrosé, est venu se justifier sur RMC dans l'émission Bartoli Time, hein, de l'ancienne tenniswoman française. Et puis on lui pose la question, parce qu'il y a des rumeurs de Zidane donc à la sélection brésilienne. Ça vous ennuierait pas de voir l'icône Zinedine Zidane coacher le Brésil, une équipe rivale et tout. Et il dit, je cite, « J'en ai rien à secouer ». Donc ça a provoqué un tollé, évidemment, partout sur les réseaux. Beaucoup de réactions. Je parlerai surtout de la réaction de Kylian Mbappé, qui ne s'est pas fait attendre pour tweeter rapidement qu'on ne manque pas de respect à la légende Zizou. J'ai oublié un autre truc que je voulais dire sur sa déclaration. Il a dit...
Que de toute façon... Même s'il avait essayé de le contacter, il aurait pas décroché, il l'aurait pas rappelé. Et en gros, il a fait du cynique en disant, de toute façon, vous voulez que je lui dise quoi? Bonjour, monsieur Zidane. Écoutez, j'ai pas de job pour vous. J'ai prolongé Didier, donc je vais voir ça avec lui.
Ouais, non, mais. Donc voilà, ça a provoqué beaucoup d'émules notamment. Ça allait même jusqu'au ministère des Sports avec Amélie Oudéa-Castéra qui a fait un discours hier, qui est en train de faire des démarches, qui va même rencontrer Platini en février prochain. On a donc, tout ce qui s'est passé aujourd'hui, je n'ai pas en détail, mais en tout cas, il va y avoir un comité exécutif exceptionnel demain, mercredi midi.
Convoqué par
Par
Noël Le Graët.
Oui. Ah ouais ?
Ouais, ouais, c'est lui qui a...
Et du coup, voilà, pour gérer un peu ça. Alors, Le Graët s'est excusé le lendemain midi, mais bon.
Oui,
voilà.
Il y a une déclaration AFP. Hein.
Oui, oui, c'est ça. Donc, il s'est pas
sûr que ce soit lui qui l'ait écrit ou qui l'ait édité. Voilà. Parce que vu l'heure où elle est sortie, elle est quand même sortie rapidement,
ouais.
J'ai trouvé.
Très, très clairement. Et puis, donc voilà. C'était un dérapage de plus et on en a marre de voir Noël Le Graët à la tête de la Fédé parce qu'on en parle depuis longtemps. Cédric, comment t'as réagi? Quelles ont été tes émotions sur le moment?
Moi, j'ai cru une blague au début. Oui. Enfin, quand j'ai vu ça sur Twitter, je me suis dit, ouais, c'est encore une connerie inventée. Et là, tu rien, tu fais. Ah non, la source, c'est quand même RMC.
C'est le monde réel, en fait.
C'est RMC, enfin voilà.
Ouais.
Puis t'écoutes, tu fais, bah non, c'est quand même dans une émission. Dites sérieux,
c'est pas un journal où on n'a pas le contexte. Là,
il y avait qu'un petit bout.
La façon dont le ton dont c'est il ça. Dit quoi.
Du coup, j'ai écouté une grande partie de l'interview, si on peut appeler ça une interview au final, parce que j'avais plus l'impression d'être à 2h du mat dans un bar limite de son côté quoi.
Et avec un vieux papy grincheux.
C'est ça, non mais c'était enfin hallucinant parce que là, on a parlé que du cas Zidane. Mais il y a eu aussi Benzema qui était évoqué.
Ouais.
Et les propos aussi vis-à-vis de Benzema sont limite en disant que... De toute façon, alors déjà, c'est là qu'on voit qu'il est complètement hors phase puisque Benzema n'a jamais joué de match pendant la Coupe du Monde. Il a quand même joué 40 minutes avec le Real en match de préparation. Ouais. le staff a fait son boulot. Quand on sait que le staff médical de l'équipe de France est remis en cause sur quand même 2-3 joueurs déjà.
Et bah sur le cas Benzema notamment.
Voilà. On rajoute. D'ailleurs, ouais, il était entendu aujourd'hui pour ça. Les affaires de.
L'audit. Donc sur les affaires de SMS un peu graves.
C'est ça, des SMS, ce qui est. Enfin, si, il y a des cas aussi qui de pédophilie. Enfin,
c'est ça autre chose, ouais. C'est...
Ouais, mais je crois que il est aussi entendu là-dessus. Enfin, c'est ouais.
En gros des cas de pédophilie couverts au sein de la fédération.
C'est ça. Il y a eu aussi la vice-présidente ou la secrétaire, enfin, qui était aussi entendue,
ouais.
Qui elle est contre Le Graët.
Madame, je sais pas si c'est Henriques ou l'autre.
Je sais plus
comment elle s'appelle.
Mais en tout cas, qui apparemment aurait des grosses bombes à lâcher.
Ouais.
Ça risque de promettre. Et puis oui, donc la réunion de demain apparemment serait pour un peu voir comment on réagit par rapport à ça au sein du ce qu'on appelle le Comet. Donc c'est un
Comex.
Le Comex, voilà, c'est un comment dire.
C'est
un espèce de conseil d'élus, quoi.
Bah en fait, c'est FIDE. Une abréviation pour comité exécutif.
Voilà, ça. On sait que là, c'est très partagé, mm-hmm. aussi, de ce côté-là. Il y en a qui sont pour un départ, mais qui sont en mode, ouais, mais on va quand même le soutenir. Donc,
ouais, ça va.
Ça risque, je pense, quand même de bouger, parce que entre donc, le tweet de Kylian Mbappé.
Ouais.
Et enfin voilà, faut saluer le courage quand même du joueur.
1 million de likes sur Twitter.
C'est ça. Mais quand on connaît sa place quand même en équipe de France,
son antécédent avec
son antécédent voilà avec la Fédé, ça paraît logique qu'il ait répondu quoi directement.
Ouais.
Après on a vu quand même pas mal de joueurs, d'entraîneurs aussi se désolidariser. Il y a le milieu amateur qui s'est désolidarisé de la fédération.
Ouais, ouais.
Enfin voilà, ça a été même plus loin dans d'autres sports. Enfin c'est.
Ouais.
On n'est pas loin quand même d'une affaire limite d'État. Quoi.
Enfin, ah oui, Le Graët est devenu ennemi public numéro 1.
Oui. Enfin, c'est... Qu'on aime ou pas le sport, à aucun moment on doit parler d'une personne comme ça.
Bah, évidemment.
Et encore plus quand on est un représentant dite d'une voilà. fédération ou même un politique qui dit la même chose, on lui tombe dessus. Donc ouais, c'est logique ouais. que lui, on lui tombe dessus.
Très bien. On va enchaîner parce qu'il est déjà 20h54 et j'aimerais faire un petit point sur le mondial de handball. Donc voilà, pour clôturer ce point, Le Graët, peut-être qu'on en reparlera dans les semaines à venir. Mais voilà, en tout cas, Le Graët, ça sent la fin, en tout cas pour son mandat qui dure depuis maintenant 2011, alors qu'il a 81 ans.
En tout cas, on l'espère.
Oui, on l'espère, en tout cas, effectivement. On aura sûrement une réponse demain. On va donc parler de handball maintenant, puisque demain à 21h, c'est le début du championnat du monde en Pologne et en Suède. Et donc, il y a ce fameux match d'ouverture entre la France et la Pologne. Je vais vous faire un petit point sur l'équipe de France, ce qui les attend, et puis surtout quels joueurs composent cette équipe. Déjà, on a ce premier match face à la Pologne qui va être hyper intéressant, hyper décisif pour la qualification au prochain tour. On est également dans le groupe de l'Arabie Saoudite et de la Slovénie. Il y a donc le deuxième match qui sera samedi à 18h et lundi à 18h également. Au niveau de la liste qui a été communiquée sans grande surprise, c'était je crois hier ou avant-hier. Voilà, je vais vous parler un petit peu de chacun des joueurs à chaque ligne rapidement. Dans les buts, on a Bolzinger et Debonnet et ensuite Vincent Gérard. Vincent Gérard qui va être normalement numéro 1 et qui va être derrière, accompagné de Bolzinger et Debonnet qui seront grattés des minutes. Et puis, il y a à noter donc l'absence notamment de Wesley Pardin, qui est second gardien d'habitude et qui est là, n'est pas disponible. Au niveau des ailiers gauches, on aura Dylan Naï et Mathieu Grébil. Au niveau des arrières gauches, on aura Nicolas Karabatic, Thibaut Brillet, Romain Lagarde, Elohim Prandi, en demi-centre Quentin Mahé, Nedim Remili, arrière droit Dikamem, Melvin Richardson, ailier droit Yanis Len, Valentin Porte, en pivot Ludovic Fabregas, Lucas Karabatic et Nicolas Tourna. Au niveau de cette équipe, il faut souligner certaines individualités vont se démarquer. Déjà, c'est le 10e mondial pour Karabatic, 20 ans après son premier. Au niveau de son expérience, évidemment, ça va être décisif de le voir là-dessus. C'est sa dernière occasion de décrocher une 5e étoile. Elle a 7e pour l'équipe de France. Au niveau des autres absents, on peut parler de Karl Konan qui est meilleur défenseur de cette équipe. Donc on l'a dit, Wesley Pardin, Hugo Desca qui est ailier gauche titulaire et assez prolifique, et également Aymeric Mine, la pépite nantaise qui a été très bon lors du dernier Euro. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Alors je n'aurai pas le temps de tout vous détailler, on reviendra sur ça lors des prochaines émissions pour une fois que les matchs ont débuté. À noter que donc il y a eu deux matchs de prépa contre les Pays-Bas et contre l'Égypte, et donc il y a eu deux victoires pour les Bleus, et notamment Melvin Richardson qui a été pas mal mis en avant sur ces deux rassemblements. Au niveau des autres favoris, on retrouve donc la Suède qui est hôte de la compétition et qui est championne d'Europe en titre, vice-championne du monde en titre et qui va être l'un des ogres de ce tournoi. On a toujours le Danemark, champion du monde, qui peut compter sur Mikkel Hansen. Et puis l'Espagne, toujours au rendez-vous sur les dernières compétitions. À noter que l'équipe de France, je terminerai là-dessus, est peut-être un tournant de son histoire. Un seul titre, donc avec les JO de 2021 depuis 6 ans. Donc voilà, ça va être très intéressant de suivre ça. Et puis surtout, c'est l'avant-dernière compétition avant les Jeux de Paris 2024. Donc voilà, les jeunes doivent prendre la main et confirmer sur ce mondial. Ça va être très intéressant à suivre et on a, je trouve, en tout cas pour terminer là-dessus, une très très belle équipe de notre côté. On va clôturer cette émission rapidement. Faustin, est-ce que tu peux nous faire un point sur l'EAB?
Ouais, là c'est la mi-temps et il gagne 41 à 39.
Donc voilà, l'EAB qui part en tête pour l'instant. On va se quitter avec donc le générique. On se retrouvera donc la semaine prochaine, mardi 17 janvier prochain à 20h toujours. On ne sait pas encore de quoi on parlera, mais en tout cas on parlera de sport, ça c'est sûr. On parlera sûrement de la Continental Cup. Pour ceux qui vont y aller, bonne chance. On compte sur vous pour pousser nos ducs. Et puis nous, donc comme je le disais, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure sur Radio G.